Vous écoutez Lille Info sur Radio Campus 106,6 FM www.campuslille.com. Comme chaque mercredi, entre 17h30 et 18h, l'occasion de présenter un autre volet de l'Université Lille 1. Aujourd'hui, on va parler audiovisuel et on va parler d'une opération qui s'organise pour demain. Demain, nous serons le 31 mars, jeudi, et toute la journée, il se passera des choses au SEMM. Le SEMM, S-E-M-M, qu'est-ce que c'est ? Nous avons l'occasion d'accueillir M. Thierry Danquigny, qui est directeur donc de ce service dont il va nous parler. Bonjour M. Danquigny.
Oui, bonjour René.
Donc le SEMM.
Alors le SEMM, oui, c'est vrai que c'est un acronyme de plus dans la liste de tous les acronymes qu'on rencontre dans le domaine des TIC, technologie de l'information et de la communication. Et là, plus particulièrement, le SEMM est concerné par à la fois les TIC, technologie de l'information et de la communication, et les TICE, où le E signifie enseignement. Alors le SEMM, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, c'est service, enseignement et multimédia. Donc nous avons la double casquette, c'est-à-dire de construire, de créer, de produire des ressources numériques multimédia à destination des étudiants, des enseignants et aussi des personnels. Produire, ça signifie donner les ressources, mais donner aussi le moyen de diffuser ces ressources.
Voilà, donc vous avez un espace, des outils et un projet.
Oui, tout à fait. Et ce projet, justement, c'est de pouvoir mettre le plus facilement possible des ressources numériques à disposition de tous. Par exemple, nous avons une plateforme pédagogique, la plateforme Moodle Lille 1, qui, je pense, est très connue au sein de Lille 1. Nous avons aussi un réseau social qui s'appelle Blogs Lille 1, sur lequel il est possible de déposer des ressources numériques. Et bien entendu, Lille 1 TV, qui est destiné à diffuser du matériel audiovisuel.
Voilà, donc tout cela pour une partie qui est visible de l'extérieur, on va dire, puisque vous avez une fenêtre internet qui permet de voir et de revoir des productions qui sont en ligne.
Oui, tout à fait.
Et la deuxième chose, c'est le circuit, on va dire, interne, voire l'aide aux laboratoires, aux chercheurs, aux professeurs de l'université et aux étudiants. Donc là, vous avez des productions et aussi des capacités de réaliser pour eux, de les aider dans leurs projets.
Oui, c'est tout à fait l'esprit du SEMM. Nous sommes un service commun, donc au service des enseignants qui souhaitent s'initier au numérique, qui souhaitent expérimenter de nouvelles manières d'apprendre, de nouvelles manières de diffuser du savoir pour atteindre des populations étudiantes en demande parfois de matériel audiovisuel ou numérique ou simplement des ressources multimédia enrichies.
Alors, si on prend les deux dernières générations, on va dire, ce sont les dernières générations qui sont nées sous le signe des médias, et notamment de l'audiovisuel et tout ce qui est télévision. Là, on est entré depuis une bonne dizaine d'années dans l'ère du numérique. Pour vous, cette adaptation à ces outils et aussi à ces méthodologies peut-être de travail dans l'enseignement à développer. Il faut convaincre aussi. Est-ce que cette partie convaincre, ça fait partie de vos missions ou là c'est plutôt l'aspect politique de l'université qui le gère ?
Alors il y a plusieurs axes. Il y a effectivement une politique. Je vais parler de la politique au niveau gouvernemental. La politique gouvernementale encourage l'usage du numérique. Elle essaie de disséminer des dispositifs numériques. C'est d'ailleurs un petit peu cet axe-là qui a été développé dans le rapport Isaac de 2007, qui justement insiste sur le fait que le numérique fait partie intégrante de nos vies et donc il y a matière à chercher à l'utiliser dans l'université. Donc il y a un gouvernement qui insuffle une politique et il y a des universités qui en même temps essaient de relayer cette politique tout en essayant aussi de l'adapter. Parce que on se rend compte très rapidement que finalement les populations étudiantes qu'on nomme par le terme de génération Y ou de digital natives sont en fait des populations qui effectivement sont en demande de numérique, mais qui sont aussi en demande d'autres choses, qui sont en demande de contact humain, et qui aussi, finalement, continuent à utiliser le papier. C'est une population étudiante qui, finalement, imprime beaucoup et qui aime aussi regarder des ressources off, c'est-à-dire des ressources de type livre, des ressources imprimées. Donc, en fait, on est face à une population qui a des profils très variés et donc dans ce contexte-là s'adapter est un véritable enjeu.
Alors, si on prend les nouvelles générations d'étudiants, je pense que pour la plupart, ils sont assez à l'aise avec l'ère du numérique, avec l'Internet, etc. Pour autant, les enseignants ont été formés peut-être un peu avant quand même. Et est-ce que vous constatez un décalage, un rattrapage à faire, une prise de conscience éventuellement pour améliorer et adapter les choses ?
Pour moi, c'est un problème assez complexe hein, que vous posez là, parce que bon, d'une part, on a affaire à une population d'enseignants qui utilise le numérique quand même depuis pas mal d'années. L'usage du numérique a été progressif pour toute une génération d'enseignants. Ils ont, pour une part, intégré progressivement le numérique dans leur pratique. Bon, la pratique du mail, par exemple, et la pratique des TIC en général, la pratique de l'Internet, la pratique du téléphone. Par contre, des générations d'étudiants, le numérique a été immédiat, c'est-à-dire tous les objets numériques ont été donnés d'emblée. Et donc, il n'y a pas eu cet apprentissage progressif. Les nouvelles générations passent directement dans l'environnement numérique que les enseignants connaissent maintenant. Pour certaines générations d'étudiants, et encore faut-il, on pourrait parler de fracture parfois numérique entre les étudiants, mais globalement, pour les étudiants, le numérique est dans certains cas un état de fait complètement naturel.
Donc effectivement, pour beaucoup d'étudiants, c'est, c'est-à-dire une façon de vivre carrément.
Oui, on peut dire que c'est une façon de vivre, mais pour ces nouvelles générations, le numérique ne pose pas question. C'est-à-dire que en fin de compte, il y a le numérique pour ces étudiants n'est pas un étonnement. Il est un état de fait, il est un état de fait naturel, ce qui signifie pour moi que les étudiants en fait sont en quelque sorte multimodales, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien passer allègrement de quelque chose qui est numérique à quelque chose qui est non numérique, c'est-à-dire que le passage du numérique au papier n'est pas ringard en soi. Alors que pour une certaine génération d'enseignants, on pourrait presque imaginer que le fait de revenir au papier est ringard et pourrait sembler ringard pour certains étudiants. Mais en fait, il me semble que ce n'est pas le cas.
En même temps, le numérique permet des choses fantastiques, mais n'empêche pas le recours à l'humain, au courant direct, etc. En exemple, un sociologue me disait récemment, je donne des cours qui sont aussi consultables en ligne pour eux. Ils disent oui, je vais aller voir sur le site ce soir parce que j'ai pas le temps de venir au cours.
Oui.
Et en fait, quand il fait un petit peu le sondage, il se rend compte que tous les étudiants ne jouent pas vraiment le jeu. Donc voilà, tout ce rapport à ce qui est possible de faire avec le numérique, mais qui n'est pas forcément joué au niveau de l'étudiant comme devant être accompli pour un projet donc d'études, tout cela, il faut quand même un minimum de relations personnelles. On ne peut pas échapper à ça.
Oui. Et puis, il y a aussi le fait que, comme nous disions, le numérique est une pratique naturelle chez ces nouvelles générations d'étudiants, ce qui fait que l'enseignant pourrait avoir tendance à postuler que si l'on utilise le numérique dans l'enseignement, ce sera obligatoirement un gain de motivation supplémentaire. Encore une fois, pour l'étudiant, c'est quelque chose de normal, et ça le sera d'autant plus pour les générations à venir. Alors, ce qui veut dire que le numérique n'échappe pas à la pédagogie, c'est-à-dire que le numérique n'échappe pas à la recherche d'objectifs concrets donnés à des étudiants, n'échappe pas à finalement, voilà, le numérique, mais so what ? Qu'en fait-on du numérique ?
Voilà, donc on pourrait imaginer un guide du bon usage du numérique.
Oui, le numérique est à mon avis indispensable à notre époque. Il est en tout cas difficilement contournable. Mais effectivement, le numérique n'est pas une fin en soi. Et ça s'apprend. C'est un apprentissage.
Alors, il y a aussi ce risque d'éparpillement. Une fois qu'on est, bien sûr, sur Internet pour aller voir un cours, parfois on peut dériver.
Oui. Eh bien, figurez-vous que j'interviewe des étudiants sur ce sujet, et certains étudiants me disent, j'oserais même dire tous les étudiants que j'interviewe, par exemple dans le cadre de révision, je pose des questions sur comment révisez-vous. Eh bien, en fait, il s'avère que ces étudiants coupent en général tout ce qui pourrait les parasiter. C'est-à-dire qu'ils, ils ont tendance à éloigner leur téléphone dans leur pratique. Ils ont tendance à se mettre dans une chambre isolée, dans une pièce isolée. Ils ont tendance aussi à couper la télé, ne pas écouter de musique. Et ça m'a surpris parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup des étudiants, des nouvelles générations qui sont dites multitâches. C'est vrai, ils peuvent être multitâches, mais par contre, dans un contexte analysé là de pure révision, bien souvent, ils ont tendance à être monotâches et se consacrer uniquement à la tâche. Et ça, c'est plutôt rassurant pour les enseignants qui nous écoutent peut-être.
Voilà, donc on espère que c'est une réelle pratique et pas seulement une façon de vous faire plaisir.
Oui, j'espère. A priori, j'ai croisé pas mal d'interviews, mais j'observe quand même mon propre adolescent qui est à la maison actuelle et qui a donc 18 ans, a priori, quand il révise, il met la musique, donc... Il y a peut-être déjà un gap entre une population observée entre 21 et 23 ans et une population de 18 ans. Donc voilà, tout est à relativiser.
Voilà, donc nous parlions de la journée de demain, donc 31 mars, où le SEM organise dans ces lieux un certain nombre de rencontres destinées aux professionnels, donc aux universitaires, aux professeurs des universités. Quel est l'objectif de ces rencontres et les thématiques abordées ?
Alors, l'objectif de demain, donc du 31 mars, dont on parle depuis longtemps avec le site ours2011.unif-1.fr.
On reviendra sur l'ours.
Oui, on reviendra sur l'ours. L'objectif, c'est d'abord d'inaugurer un bâtiment dans lequel habite le SEM. Donc c'est un bâtiment qui a été financé pour partie par l'État, la région et le FEDER. Donc c'est un financement multipartite. Et donc là il y a cette inauguration le matin, et l'après-midi je souhaite présenter les services numériques dans leur globalité à l'université, y compris, bien entendu, le travail du SEM dans ce domaine. Où le SEM, moi, je le considère comme étant un des maillons d'une chaîne qui constitue les services numériques de l'ILA, avec le CRI, la BU et d'autres services qui ont un rapport plus distant avec le numérique, comme la culture, le SUP, service universitaire de pédagogie. Voilà. Donc c'est un ensemble, et ce qui est intéressant dans cette journée, c'est de montrer que il y a une synergie entre les services, et que qu'on ne peut rien faire seul. Nous n'aurions rien pu faire dans cet événement sans le service communication, évidemment, qui nous a soutenus dans notre tâche d'organisation d'événements.
Voilà, donc l'intérêt aussi de cette journée, c'est de permettre de répondre à des personnels de l'université, notamment sur quels apports vous pouvez leur donner comme réponse, comme solution technique. Parfois, ils n'ont pas forcément envisagé toutes les possibilités que vous vous offrez.
Oui, l'idée, c'est effectivement encore et toujours de se faire connaître, parce que finalement, nous travaillons dans une grande université, il y a de nombreux personnels, et tout le monde ne mesure pas réellement les activités d'un service, ou voire des services. Donc c'est une occasion unique de montrer tout ce que l'on a fait et tout ce que l'on peut faire pour l'université Lille.
Voilà, donc c'est une forme d'opération portes ouvertes, mais pour les personnels.
C'est pour les personnels, mais nous avons bien entendu élargi, aux autres universités, tout au moins les universités qui nous sont les plus proches, et puis des collègues des autres universités s'ils peuvent se déplacer, notamment. Unicielle, qui n'est pas une université, mais qui est une université numérique thématique, qui a sa présidence à Lille, et dont la secrétaire générale est encore Monique Vindevogel.
Donc, si j'ai bien compris, il y a les universités en dur, et maintenant cette idée qui émerge, c'est que on pourrait imaginer un service université en ligne qui soit en phase avec les universités traditionnelles.
Oui, vous voulez dire une université en ligne qui soit comme une université
ressource,
un centre ressource. Oui. C'est un petit peu l'ambition, justement des UNT, des universités numériques thématiques, comme par exemple Uniciel pour les sciences fondamentales, ONEGE pour les sciences de gestion, UOH pour les sciences humaines. C'est un centre de ressources qu'un enseignant peut appeler pour appuyer sa pédagogie, pour pour l'aider à construire un enseignement.
Vous parliez tout à l'heure de l'ours. Alors, qui a vu l'ours?
Alors, l'ours, c'est une idée géniale, à mon sens, qui a son origine en 2008, où certaines personnes du SEM ont inventé cet acronyme pour présenté en 2008 les services du SEM et surtout les nouveaux services du SEM au travers de la plateforme pédagogique Moodle Lilin. Mmh. C'était en 2008 le plein moment du lancement d'une nouvelle plateforme pédagogique.
Donc l'ours, et donc, ressort de sa tanière, voilà, à chaque printemps, c'est ça?
Oui, alors on le ressort pas souvent, hein. Vous, mmh, vous noterez, là il était un petit peu en sommeil. Il est sorti en 2008, ouais. Et là il ressort et là il ressort, mais il ressort pour ressortir, je le souhaite, maintenant tous les printemps. Pour justement parler des nouveautés en termes d'usage et avoir un rendez-vous avec les enseignants, les personnels, les étudiants sur les outils, les usages et les ressources et les services pour expliquer l'acronyme ours.
Voilà, donc c'est complémentaire du service enseignement et multimédia, on l'a bien compris.
Oui, c'est une. Disons que on s'y perd un peu dans les acronymes, ouais, hein, mais c'est une façon. On a souhaité cette façon de communiquer un peu différente pour accrocher l'attention. Voilà, j'espère que ce sera réussi.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui hésitent encore à venir vous voir?
Ah, les personnes, y a-t-il des personnes qui hésitent à venir nous voir? En fait, nous ne rencontrons sur l'université que des personnes qui ont des emplois du temps très chargés. Mmh. Et donc, et là, je pointe quelque chose qui est très important, c'est que effectivement, un maître de conf errance, un professeur d'université, un enseignant en général a un emploi du temps très chargé entre ses cours, les articles à rédiger, la recherche à suivre, les étudiants à suivre, les copies, les colloques, le service parfois administratif. Bref, les moments sont toujours difficiles à trouver. Voilà, nous ne rencontrons en général que des personnels avec des emplois du temps très chargés. La preuve en est, c'est que cette inauguration a lieu tout de même un an après notre arrivée dans le bâtiment. Cela dit, ça nous a permis de bien nous installer. Donc, ce que j'aurais à dire à ces personnes, s'il y en a qui hésitent, eh bien, c'est d'essayer d'être simplement curieux, en essayant de garder un esprit de découverte qui fait la force finalement de l'université. Et ça, je pense que je fais confiance à l'université pour ça, pour toujours rechercher des occasions de découvrir quelque chose.
Voilà, donc un rendez-vous pour interroger, pour s'interroger. À quelle heure faut-il venir ?
Alors, donc l'accueil donc demain est à 9h30. Donc cela commence par un café, une visite, et puis après nous avons le président du conseil régional qui sera là, donc nous avons un représentant du préfet, nous aurons bien sûr un discours inaugural de monsieur Rollet. Et puis ensuite des discours autour de la politique des TIS à Lille 1 avec Clara Danon de la MINES, Philippe Mathieu, Monique Vindevogel qui nous parlera de l'historique du SEM, puisque Monique Vindevogel est l'ex-directrice du SEM, qui m'a donc proposé de suivre son œuvre initiale. Voilà.
Bien, Monsieur Danquigny, merci. Rendez-vous
merci
à demain.
Merci à vous.
Je pense que les gens savent où ça se trouve, le SEM. Enfin, on peut peut-être le rappeler.
Alors ça, c'est un petit peu la blague de Lille 1, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver le SEM puisque c'est un nouveau bâtiment un peu caché, mais il est pour ceux qui connaissent le CRI, il est à côté du CRI, et pour accéder à l'entrée, il faut être sur l'avenue Paul Langevin, et quand vous trouvez le hall Valin et que vous voyez des drapeaux à l'effigie des ours 2011, vous n'êtes vraiment pas loin.
Voilà. Merci donc et
merci à
demain.
À demain.